Pierre French aussi. Il avait de même expliqué à cet amateur de casuistique qu'en tant qu'ancien charognard des décharges, il avait tiré le plus grand parti de l'éducation jésuite dans son jeune temps. Il avait adoré Édouard Banchot et frère Pépé. Il lui était même arrivé de souhaiter engager le dialogue avec le frère Alfonso et le père Octavio dans son âge adulte, quand il s'était senti un peu mieux armé pour croiser le fer avec ces deux redoutables conservateurs. Et puis, les religieuses des enfants perdus ne les avaient jamais maltraitées, ni lui, ni Loupé. Elles ne leur avaient jamais posé aucun problème. Quant à sœur Gloria, cette peau de vache, c'était surtout Esperanza qui avait le don de la mettre à dos. Pourtant, Juan Diego avait vu juste en prévoyant que se retrouver avec Clark, élève au demeurant tout dévoué à son maître, impliquerait d'être soupçonné d'anticatholicisme. Car ce qui chiffonnait ce bon cateau de Clark, ce n'était pas que son vieux professeur ne croit pas. Juan Diego n'était pas athée d'ailleurs. Il avait maille à partir avec l'église, c'était tout. Et Clark French était frustré par ce casse-tête. Il lui aurait été plus facile d'ignorer un mécréant ou de le traiter par-dessus la jambe. La remarque négligemment faite par Clark sur la dilatation curetage n'était pas le sujet de conversation le plus relaxant pour une gynécologue obstétricienne en exercice, de sorte qu'elle se désintéressa de toute discussion littéraire. Il était clair qu'elle voulait changer de sujet au grand soulagement de Juan Diego, sinon de son mari. L'endroit où nous sommes descendus est lié à ma famille, à une tradition familiale, commença-t-elle avec un sourire plus indécis que désolé. L'encantador lui-même, je le recommande. Je suis sûr qu'il va vous plaire. Mais les membres de ma famille, c'est une autre affaire, continua-t-elle avec circonspection. Les uns et les autres, les pièces rapportées, ceux qui n'étaient pas faits pour le mariage, les nuées d'enfants. Sa petite voix se perdit. Tu n'as pas à t'excuser pour qui que ce soit dans ta famille, Josepha, objecta Clark depuis la place du mort. Nous ne pouvons pas nous engager pour l'invité surprise, qui n'a d'ailleurs pas été invité. Nous ne savons même pas qui c'est, ajouta-t-il. En général, ma famille occupe tout l'hôtel. Nous réservons toutes les chambres, mais cette année, ils en ont loué une à quelqu'un de l'extérieur. Sentant son cœur s'accélérer, Juan Diego regarda par la fenêtre de la voiture bolide les myriades d'yeux qui lui rendaient son regard le long de cette route. Oh mon Dieu, se mit-il à prier, faites que ce soit Myriam ou Dorothy. Oh, pour nous revoir, vous allez nous revoir, avait confirmé Myriam. Oui, tu peux y compter, avait renchéri Dorothy, occupée à se curer le nombril. Nous nous retrouverons à Manille tôt ou tard, tôt sans doute, lui avait expliqué Myriam avec une pointe d'impatience. Tôt sans doute, avait répété Dorothy. Pourvu que ce soit Myriam, et Myriam toute seule, songeait-il, comme si les yeux à guichant qui luisaient dans le noir pouvaient être les siens. Je suppose, dit-il au docteur Quintana, que cet invité sans invitation avait loué sa chambre avant que votre famille n'ait fait ses réservations habituelles? Mais pas du tout, s'écria Clark French. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, commença sa femme. Ta famille loue tout l'hôtel chaque année. Cette personne savait pertinemment que ce serait un événement privé. Elle s'est obstinée et l'hôtel a accepté sa réservation tout en sachant qu'il serait complet. Il faut tout de même être un drôle de numéro pour s'imposer dans une fête privée. Elle savait qu'elle y serait absolument isolée. Elle? Juan Diego sentit de nouveau son cœur s'emballer. Dehors, dans le noir, plus la moindre perdue à présent. La route rétrécie s'était faite piste de gravier, puis chemin de terre. Peut-être l'Encantador était-il loin du monde, mais cette personne ne serait pas tout à fait isolée, car elle serait avec lui. Si Myriam était cet hôte clandestin, elle ne risquerait pas d'être seule bien longtemps. C'est alors que le jeune chauffeur dut apercevoir quelque chose dans son rétroviseur. Il bredouilla deux ou trois mots en tagalogue au docteur Quintana. Clark French n'en comprit qu'une partie, mais l'inquiétude s'entendait dans la voix de l'adolescent. Clark se retourna et observa la banquette arrière, où Josefa, ayant défait sa ceinture, s'était penchée sur Juan Diego. Quelque chose qui ne va pas, Josefa? Une seconde, Clark, je crois qu'il s'est simplement endormi. Arrête la voiture, stop! Lança Clark au chauffeur, mais Josefa lui parla d'une voix brève en tagalogue et il continua de rouler. On y est presque, ça ne vaut pas la peine de s'arrêter. Je suis sûr que ton vieil ami dort, qu'il rêve même, sans doute. Mais en tout cas, il dort. Ce fut Flore qui conduisit les jeunes au Circo de la Maravilla. En effet, frère Pépé, qui se reprochaient déjà de leur faire courir un tel risque, était trop contrarié pour les accompagner, même si l'idée du cirque venait de lui et de Vargas. Flore prit donc le volant de la coccinelle avec Edward Banshaw sur le siège passager et les adolescents à l'arrière. Entre ses larmes, Loupé avait lancé un défi à la statue de la Vierge Marie quelques secondes avant de quitter l'église de la Compagnie de Jésus. « Je te demande un vrai miracle. Faire mourir de peur une femme de ménage superstitieux, c'est pas difficile. Tâche d'accomplir quelque chose qui me décide à croire en toi. Tu veux que je te dise? T'es qu'une grosse brute. Y a qu'à te voir. Tu restes planté là, c'est tout ce que tu sais faire. T'as même plus de nez. » « Vous n'allez pas lui adresser quelques prières aussi ?» avait demandé Edward Banshaw à Juan Diego. Celui-ci n'avait guère envie de lui traduire cette harangue, ni d'ailleurs de lui confier ses craintes les plus noires. S'il lui arrivait quoi que ce soit au cirque, ou si, pour une raison quelconque, lui et Loupé étaient séparés, sa sœur n'aurait aucun avenir, puisqu'il était le seul à la comprendre. Il ne faudrait pas compter sur les jésuites pour la garder et prendre soin d'elle. On la mettrait dans une institution pour demeurer, où on l'oublierait, comme on oubliait, si on l'avait jamais su, le nom de cet établissement et où il se trouvait. En ce temps-là, Los Niños Perdidos était construit de fraîche date. Il n'y avait qu'un autre orphelinat à Huachaca, à la périphérie de la ville et dans la montagne, et celui-là, tout le monde connaissait son nom. Il s'appelait la Ciudad de los Niños, la cité des enfants. La cité des garçons, oui, rectifiait Loupé, car les filles n'y étaient pas admises. Quant aux garçons, ils avaient pour la plupart entre 6 et 10 ans, l'âge couperet étant de 12 ans, ce qui en excluait Juan Diego d'emblée. La cité des enfants, fondée en 1958, était plus ancienne que l'orphelinat des jésuites, et elle lui survivrait. Frère Pépé n'en disait pas de mal, peut-être parce que, pour lui, tout orphelinat était un don de Dieu. Le père Alfonso et le père Octavio se bornaient à faire observer que l'instruction n'était pas la priorité de cette cité. Quant à Juan Diego et Loupé, ils avaient simplement observé qu'un bus scolaire convoyait les pensionnaires jusqu'à une école située près de la basilique de la Vierge de la Solitude. Avec le haussement d'épaules qui la caractérisait, Loupé avait déclaré que le bus en question était aussi déglingué que ceux qui servaient au transport des garçons d'une manière générale. L'un de leurs camarades aux enfants perdus venait de la cité. Il ne reprochait rien à cette institution, où il n'avait jamais été maltraité. Il y avait des boîtes à chaussures empilées dans le réfectoire, et tous les garçons, soit une vingtaine, partageaient le même dortoir. Juan Diego s'en souviendrait plus tard. Il n'y avait pas de draps sur les matelas, les couvertures et les animaux en peluche se transmettaient de génération en génération. Le terrain de foot était plein de pierres, il valait mieux ne pas tomber. On faisait cuire la viande dehors au feu de bois. Ces observations n'étaient pas des critiques, mais elles contribuaient à donner à Juan Diego et à Loupé l'impression qu'ils ne s'y plairaient pas, quand bien même ils auraient eu l'âge et, pour Loupé, le sexe requis. Ce que Loupé redoutait plus que tout, c'était qu'il soit envoyé dans une institution pour demeurer, où elle avait entendu dire que les pensionnaires se cognaient la tête contre les murs et qu'on leur attachait parfois les mains derrière le dos pour les empêcher d'arracher les yeux de leurs camarades ou les leurs. Elle n'avait pas voulu citer ses sources. Curieusement, les deux gamins de la décharge en étaient venus à conclure qu'à défaut de retourner à Guerrero, le Circo de la Maravilla était une option plus avantageuse que de poursuivre leur éducation chez les jésuites. Rivera, qui aurait été trop heureux de les reprendre, était notoirement absent le jour où Flore les conduisit à la Maravilla avec leur seigneur Eduardo. Il aurait d'ailleurs eu du mal à caser sa carcasse dans la coccinelle. Quant aux enfants, ils trouvaient tout à fait approprié d'être emmenés au cirque par un tapin travesti. Flore, qui fumait en conduisant, tenait sa cigarette au niveau du rétroviseur latéral. Edward Banshaw, nerveux, il savait qu'elle se prostituait, mais ignorait qu'elle fût travestie, jeta, à l'air de rien, « Moi aussi je fumais. Mauvaise habitude, j'ai arrêté. »« Et la chasteté, c'est pas une mauvaise habitude ?» lança Flore. Il fut surpris qu'elle parle si bien anglais, ne sachant rien de son inavouable épisode à Houston, et pas davantage qu'elle était née garçon et en avait conservé les attributs. Flore louvoyait entre les piétons, une noce venant de sortir de l'église. Les mariés, leurs invités et l'orchestre mariachi en tintamarre de fond. « Les imbéciles habituels, quoi » commenta-t-elle. « Je m'inquiète pour